Le festival des expositions réalisées par des apprentis du Master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'hôtel de Guine d'Arras autour de 13 mini-expositions qui font appel à la curiosité avec des thématiques d'actualité ou de société, qu'elles soient écologiques, instructives, en rapport avec le vivant, mais en alertant, en sensibilisant ou en faisant comprendre le pourquoi du comment au public dans un but ludique. Je vous propose donc un panel de 6 expositions expliquées par les étudiantes qui les ont réalisées. Pour en savoir plus, on sera en compagnie de Lola, Marine, Hélène, Julie, Alexon, et on commence par Luna qui, elle, s'est intéressée aux aides à domicile et les essentiels du quotidien. Luna, toi, tu exposes dans le Festival des expositions à l'hôtel de Guine quelque chose de très intéressant sur les aides à domicile. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le concept? Comment tu as créé cette fresque ou ces multipanneaux là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as travaillé ça?
Alors, déjà, c'était sur l'idée de travailler sur les essentiels du quotidien. Et j'ai contacté un collectif qui s'appelle Les Essentiels du Lien et du Soin, donc qui m'ont permis de faire les audios et d'avoir un fond, et qui m'ont aussi donné leur emploi du temps, donc ce qui a permis de créer la base en fait de la fresque, puisque la fresque qui est représentée ici, c'est celle qui est sur les emplois du temps qui m'ont été transmis par les aides à domicile. Et donc c'est une illustratrice qui a travaillé sur ce projet qui s'appelle Pauline Ayembo.
On voit qu'il y a aussi des photos. Et comment, parce qu'il y a des heures, 16h, 14h30, 15h, 17h. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que tu as eu toutes ces photos?
Alors ces horaires correspondent justement aux emplois du temps qui sont juste avant. Et les photos m'ont été transmises par une photographe qui s'appelle Laurane Philibert, qui a travaillé avec l'ADMR de Challes-les-Eaux. Et donc, il m'a autorisé à utiliser ces photographies pour l'exposition.
Alors, est-ce que ce sont des emplois du temps qui sont réguliers dans l'année ou est-ce qu'il y a peut-être une période, je pense au Covid forcément, où là, forcément, les aides à domicile étaient essentielles, on va dire.
C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Des aides à domicile, c'est un peu ressorti. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on n'en parle pas du tout. Elles sont très invisibilisées. L'idée, c'est que beaucoup m'ont dit, par exemple, qu'après le Covid, on n'en avait plus du tout parlé, comme si elles n'existaient plus maintenant.
Est-ce que ça te tenait à cœur, justement, de réaliser ce travail, cette exposition pour ce festival?
Je suis assez sensibilisée à tout ce qui est métier invisible et les aides à domicile, tout ce qui est métier en lien avec la vieillesse aussi, je suis assez sensibilisée à ça.
Il y a une fresque, il y a des photos, mais il y a aussi de l'audio. Alors, qu'est-ce qu'on y entend dans ces casques?
Alors, il y a 3 audios. Un audio sur plutôt tout ce qui est mission du quotidien. Un deuxième audio sur les différentes pénibilités, à la fois physiques, mentales, et aussi tous les problèmes liés à cette invisibilisation dans la société, également politique. Et un dernier audio qui est sur les revendications qui sont portées aujourd'hui, notamment par le collectif qui m'a...
Ces revendications, donc, c'est quoi exactement?
Il y a des revendications forcément liées au temps d'intervention, parce qu'ils se réduisent de plus en plus. Donc l'idée, c'est de conserver quand même des temps d'intervention proportionnels aux besoins de la personne qui est accompagnée. Il y a l'idée de rémunérer un peu mieux les internes.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a un panneau où c'est marqué une profession qui est dévalorisée, point d'interrogation.
Oui, il y a aussi l'image du métier qui n'est pas forcément... on a encore beaucoup l'image de la femme de ménage en tête. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Il y a toujours une partie de ménage, comme beaucoup... les 3 auxiliaires de vie ont dit qu'il y avait toujours la partie ménage, mais qu'effectivement, c'était beaucoup plus que ça, puisque l'idée, c'est toujours... accompagner la personne et maintenir son autonomie. Donc il y a aussi l'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au repas, l'aide aux sorties aussi. Et après, il y a tout le côté humain, être là parfois pour la personne qui ne voit personne d'autre dans la journée. Voilà, c'est les premiers lanceurs d'alerte quand il se passe quelque chose. Voilà.
Ce collectif qui t'a accompagné pour cette exposition, si on veut les contacter, si on veut avoir des infos?
Le collectif a un site Facebook qui s'appelle Les Essentiels du Lien et du Soin, qui n'est pas composé uniquement d'aide à domicile, mais aussi d'AESH, d'autres métiers du lien et du soin. Voilà. Mais il a été créé que cette année, enfin mis en place que cette année, après une rencontre sur un film de François Ruffin, Debout les femmes.
On enchaîne avec Alexon qui, elle, s'est plongée dans le monde de la culture et en l'occurrence dans les musées qui accueillent un public atteint de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et comment tu as réalisé justement cette exposition ?
Alors oui, je m'intéresse en fait aux musées, aux centres d'art ou autres qui, eux, accueillent de temps en temps des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ah. Donc en fait, c'est tous les dispositifs de médiation qui sont faits pour ce public spécifique que je rassemble en fait sur des cartes. Donc chaque carte développe un peu les propositions faites par ces musées et raconte un petit peu les ateliers qui sont organisés et tout ce qui fonctionne lors de l'accueil de ce public, tout ce qui ne fonctionne pas. Enfin, en fait, ces cartes-là sont à destination des musées qui ont un petit peu peur d'accueillir ce public-là parce qu'ils se disent que c'est un public contraignant, qui demande beaucoup d'accompagnement, qui demande une attention permanente. Alors oui, c'est un public qui a besoin d'être encadré. Et surtout, il faut une formation, ça c'est indéniable, c'est très important. Mais c'est un public qui est capable de venir au musée et à moindre coût. Et donc, ces cartes-là sont un petit peu un moyen de dire à des petits musées qui ont un petit peu peur que c'est possible, avec un minimum de formation, mais c'est possible de les accueillir au sein des musées.
Est-ce que c'est des guides spécifiques justement destinés à ce public ou ça peut être un guide lambda qui est formé aussi pour ce genre de public ?
C'est spécifique à la maladie d'Alzheimer. Dans ce cadre-là, bon, ça ne touche pas par exemple aux maladies d'autisme, etc. C'est vraiment toute une autre formation. C'est en lien aussi avec d'autres maladies neurodégénératives, mais c'est focalisé maladie d'Alzheimer.
Toutes ces cartes, ces fiches descriptives, tu te les as procurées comment ?
Bah, je les ai écrites, donc elles sont réparties en quatre thématiques. Donc, les cartes oranges, c'est vraiment propre au musée. Les cartes violettes, c'est sur la maladie d'Alzheimer en elle-même. Il y a des cartes bleues, ça présente les fondations, les associations. Et les cartes vertes, c'est les programmes.
Et on voit que c'est international, hein, parce que c'est partout, hein.
C'est ça. Vraiment, ça a commencé au MoMA, un des premiers, le musée d'art contemporain à New York, qui a commencé à proposer des choses, mais c'était très récemment, ça date seulement d'une dizaine d'années, que des choses se font. Et puis, petit à petit, ça émerge, les musées s'en emparent. Il y en a beaucoup, c'est vrai, en France, en Île-de-France, mais il y a quand même quelques petits musées un peu tout autour, qui gravitent et qui proposent des choses.
On est à Reims, je vois la piscine de Roubaix, donc on connaît bien, le Palais des Beaux-Arts de Lille. Est-ce que, le musée des Beaux-Arts d'Arras, qui est en ce moment en travaux, mais est-ce qu'il participe également à ce...
Alors pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose se passer là-dessus à Arras. Donc j'espère que peut-être quelque chose se fera un jour et... J'espère pour le musée, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien.
Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout parce qu'il est en travaux de toute façon. C'est quelque chose qui touche particulièrement, cette maladie d'Alzheimer, qui est assez répandue, et même aux personnes âgées, mais des fois qui touche aussi un autre public beaucoup plus jeune.
C'est une maladie en fait que j'ai découvert quand j'étais jeune, parce que mon arrière-grand-mère en fait était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et moi quand j'ai connu mon arrière-grand-mère en fait on n'a pas pris vraiment le temps de m'expliquer ce que c'était la maladie d'Alzheimer, et on m'a simplement dit elle est folle. Donc en fait elle est décédée en 2011 et moi en 2011 j'avais 11 ans, et donc j'ai toujours pensé qu'elle était morte de folie jusqu'à ce que je comprenne plus tard que c'était associé à la maladie d'Alzheimer. Et j'en ai un peu voulu à ces personnes qui n'ont pas pris le temps de m'expliquer ce que c'était, parce que j'avais vraiment une fausse idée, et surtout qu'après j'ai découvert mon arrière-grand-mère, de par les souvenirs qu'on me racontait d'elle, et c'était vraiment une femme qui avait une joie de vivre incontestée, alors que moi je la voyais que hyper renfermée, hyper stressée, etc. Qui avait une joie de vivre, qui sortait tout le temps, qui vivait pleinement, et j'ai pas rencontré cette femme-là, et pour ça, je me suis vraiment intéressée plus profondément à cette maladie, qui est un sujet absolument passionnant. Et j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice et pouvoir aider, moi, ma petite échelle, ces personnes-là.
On poursuit avec Julie, qui évoque à présent un sujet que tout le monde connaît, le bois. Et la construction des meubles, mais surtout la manière dont chacun d'entre nous consomme ces meubles. toi, ton expo, c'est plutôt sur le bois.
Exactement. C'est plus précisément sur la consommation de mobilier. C'est un domaine, enfin un problème dont on parle très peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup une conscience écologique qui se réveille vraiment dans le monde. On va parler de la nourriture, des vêtements, mais c'est vrai que les meubles, on se pose pas forcément la question. Juste, on en a chez nous, mais on réfléchit pas vraiment à leur durée de vie, à leurs conditions de fabrication. Et je voulais un peu mettre ça en lumière. Donc j'ai toute une première partie qui parle plutôt de la commercialisation et de l'industrie. Pourquoi il y a tant d'écarts de prix entre deux tables basses alors qu'elles semblent être identiques. Mais finalement, comment elles sont fabriquées, avec quels matériaux et qu'est-ce qui est... Ok, on va acheter une table à 20 euros, mais combien de temps elle va nous durer dans le temps, alors qu'une table un peu plus chère, peut-être qu'on pourra la transmettre aux générations futures. Et puis dans la deuxième partie, là, je viens plus sur un mini atelier avec quatre petites manipulations à faire où on va découvrir les matériaux, les assemblages, la quincaillerie et les finitions. C'est quatre points d'entrée à la fabrication de mobilier. Et donc pour découvrir entre un matériau, effectivement les tables moins chères ça peut être fait avec du bois de moins bonne qualité, même des dérivés du bois, du contreplaqué qui vont pas tenir dans le temps, alors que du bois massif, oui c'est un peu plus cher mais ça va tenir, on peut le reponcer s'il y a une petite rayure. C'était un peu, je veux surtout que les visiteurs apprennent à découvrir ce matériau et découvrent un petit peu toute cette industrie et comment tout ça est fabriqué.
On parle de bois, donc forcément il faut l'entretenir, donc j'imagine aussi que dans le cadre de ton expo, tu expliques comment entretenir ce bois justement pour que dure plus longtemps.
Exactement, dans la partie finition, là je vais plutôt appuyer sur quelle finition va plus protéger si on met le bois à l'extérieur, si on le met à l'intérieur. Une table, on ne va pas mettre la même chose que sur un petit meuble de décoration. Donc pour vraiment avoir des meubles qui peuvent durer dans le temps et être utilisés plus longtemps.
J'imagine qu'aussi ce bois s'inscrit aussi dans ce qui est l'économie éco-responsable. On pense toujours évidemment à cette grande, grande maison suédoise qui est IKEA et qui vend des choses qui sont soi-disant pas chères, mais en même temps, si on les démonte une fois, c'est terminé, on ne pourra plus les remonter. J'ai assisté notamment à un documentaire qui était passé dans le cadre du FIGRA à Douai, un documentaire du grand reportage et de fait de société, et qui dénonçait justement que IKEA était installé partout dans le monde et que finalement, c'est pas très responsable et c'est pas très écologique.
Effectivement, je ne veux pas taper que sur les doigts d'IKEA.
Non, mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, effectivement. Mais c'est vrai que quand on se balade dans un magasin IKEA, on peut reconnaître un petit peu tous les salons de chez qui on a été dernièrement. Tout le monde a un peu le même intérieur. Et puis, c'est des meubles qui vont durer 2, 3, 5 ans peut-être, mais qui ne vont pas aller plus loin. Il y a des vrais problèmes derrière de déforestation, d'abattage de forêts entières. Et puis après, ils vont replanter, mais finalement, ils vont replanter des forêts où... Enfin, ça ne s'appelle même plus des forêts, c'est des sylvicultures où il n'y a qu'une espèce d'arbres, et donc c'est très problématique parce que la biodiversité elle peut pas se développer. Alors oui, ils vont jouer là-dessus en disant on replante tout ce qu'on coupe, mais on replante quoi par rapport à ce qu'on a enlevé à la base? Donc tout ça c'est aussi un vrai problème qu'on peut soulever avec cette exposition. Oui.
Question bonus, tu as un plan aussi pour les petites bébêtes éventuellement, les termites, etc., qui s'attaqueraient au bois pour lutter contre ça? Il y a quelque chose que tu pourrais nous dire?
Alors déjà, il y a des essences qui sont normalement beaucoup moins attaquées. Tout ce qui est arbre fruitier va être plus attaqué, mais tout ce qui est arbre non fruitier, c'est beaucoup moins attaqué. Donc on va privilégier le mélèze, les choses comme ça, pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Et puis malheureusement, quand il y a une infestation, il faut traiter, et là, il n'y a pas tellement de solutions très écologiques. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez compliqué de trouver d'autres solutions.
Hélène, toi, tu proposes une exposition sur Violette Leduc. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, déjà peut-être rappeler, pour les auditrices et auditeurs, qui est-elle ?
Alors, Violette Leduc, c'est une écrivaine du XXe siècle qui est née à Arras en 1907 et qui est assez célèbre parce qu'en fait, elle a été une grande amie de Simone de Beauvoir pendant une vingtaine d'années. C'est elle qui l'a découverte, qui l'a fait rencontrer les éditions Gallimard et qui l'a promue en tant qu'autrice. Alors même que c'était une personne qui venait de Arras, qui a vécu à Valenciennes et qui n'avait pas du tout un parcours littéraire. Elle n'a d'ailleurs jamais eu son baccalauréat. Mais par contre, elle avait une passion, celle de l'écriture, et l'envie de devenir écrivaine.
Elle n'était pas politiquement engagée, mais on peut dire quand même qu'elle était assez militante dans certains domaines.
Encore aujourd'hui, en fait, Violette Leduc, on ne sait pas trop où la placer, où la ranger, parce que de son vivant, en fait, elle a été censurée. Et les éditions Gallimard et Simone de Beauvoir ont énormément travaillé sur ces textes pour en retirer tout le contenu qui pouvait choquer la population de l'époque. Donc le contenu sur l'avortement, les récits où elle parle de viol, elle parle également du fait qu'elle a eu des amours lesbiens pendant sa scolarité. Et donc tous ces éléments qui faisaient partie de sa vie et à partir de laquelle elle a beaucoup écrit ont été retirés, censurés, diminués à l'intérieur même de ses ouvrages. Donc elle a essayé d'avoir une écriture très vraie, très authentique, où elle parle d'elle et elle fait rencontrer au public une vie qui est une vie singulière, et pour autant, les maisons d'édition n'ont pas forcément suivi. Donc encore aujourd'hui, c'est une figure qui a besoin d'être défendue, et d'ailleurs c'est ce que fait Gallimard avec la collection qui est ressortie, et ils ont republié un de ses ouvrages qui avait été censuré en 1955 pour publier une version en 2023, entièrement expurgée des marques de censure pour la toute première fois.
Alors je vois aussi qu'il y a quelque chose de très ludique, j'imagine que c'est à destination des enfants peut-être, je ne sais pas. Il y a des crayons de couleur, il y a des petits dessins. Tu peux nous expliquer un petit peu ?
En fait, l'exposition et la vocation à itinérer dans les bibliothèques, en priorité les bibliothèques des Hauts-de-France, et elle a pour objectif de se répartir dans l'espace, y compris dans les espaces jeunesse. Donc il y a toute une section de l'exposition qui propose des dispositifs interactifs et ludiques pour que les enfants récupèrent ce matrimoine qui est important et que forcément, des fois, il y a des figures comme ça, on se rappelle les avoir dessinées, on se rappelle avoir joué, on se rappelle avoir lu des histoires qui nous racontaient leur vie et c'est plus tard qu'on découvre leurs ouvrages. Donc c'était important pour moi qu'il y ait un aspect jeunesse et enfant dans cette exposition.
Dernière question, évidemment, je vais te demander d'où te vient cette passion donc, pour Violette Leduc. Est-ce que tu t'intéresses à elle depuis longtemps ou tu l'as découvert par hasard ?
En fait, en arrivant, moi j'ai emménagé à Arras pour mon cursus universitaire et je ne connaissais pas Violette Leduc, mais j'avais envie de lire une écrivaine qui venait de la ville. C'était important pour moi d'aller dans les rues de Arras et d'essayer de découvrir la ville au regard d'une écrivaine. Donc j'ai trouvé Violette Leduc en tapant sur internet écrivaine née à Arras avec ses mots-clés exactement. Et par contre, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais trouvé de rue Violette Leduc, jamais trouvé une bibliothèque Violette Leduc. J'ai cherché pourtant et j'ai cherché la trace de sa mémoire. Et finalement, je n'avais que les livres et ma recherche Google.
Alors Marine, toi tu nous présentes une exposition qui est basée sur la céramique, avec une question, va-t-elle boire la tasse ? Avec un grand point d'interrogation.
Alors en fait c'est une exposition sur la céramique et ses enjeux écologiques, puisqu'on a l'image de la céramique comme une pratique liée à la terre, quelque chose d'assez naturel, alors qu'en fait il y a plein d'enjeux écologiques qui se posent. Donc le but de l'exposition, c'est d'abord de découvrir ce que c'est la céramique, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, et pour les novices, c'est pas forcément facile. Donc on va décortiquer à la fois le procédé de fabrication, mais aussi tous les termes qu'on utilise en céramique. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on passe à la deuxième partie, où en fait, on s'intéresse justement aux problématiques écologiques que pose la céramique. Donc on a notamment les problématiques liées à l'extraction de la terre, à l'utilisation de colorants...
Des pigments.
C'est ça. Nous, on utilise plutôt des oxydes métalliques que vous avez là. Et en fait, à la base, c'est des choses qu'on retrouve dans la nature. Par exemple, le cobalt, la manganèse, on retrouve ça dans la nature. Mais en céramique, on les utilise à des concentrations telles que si on les relâche comme ça, après, dans les eaux, parce qu'on nettoie son pinceau ou quelque chose comme ça, ça devient extrêmement polluant. Et il y a aussi la cuisson, puisque la céramique, on la cuit en général 2 voire 3 fois à plus de 1000 degrés pendant plusieurs heures. Donc c'est vrai que ça fait une consommation énergétique qui est assez importante. Donc c'est un peu ça que décortique la deuxième partie de l'exposition. Après, on a une troisième partie qui vient en fait un petit peu expliquer comment on peut faire pour repenser sa pratique et essayer de la repenser de manière écologique. Donc comment bien gérer son atelier, comment essayer de recycler sa terre, comment bien faire pour trier ses déchets et par exemple ne pas relâcher les émaux directement dans la nature. Et ça permet aussi de tout finir sur une touche un petit peu plus positive, parce que l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut plus faire de céramique, mais que c'est important de garder en tête comment la faire. La dernière partie, en fait, ça présente 3 projets assez innovants, soit de jeunes entreprises, soit d'un collectif de céramistes qui sont assez engagés, ou d'une manufacture. Et ces trois projets, donc, qui sont l'association Fer-Argile, l'entreprise Guylaine et la manufacture Révol, en fait, ont une approche particulière, soit en utilisant de la céramique recyclée, en privilégiant la monocuisson, en faisant des émaux à base de cendres ou de terre naturelle. Comme ça, ça montre aussi d'autres manières de faire de la céramique avec justement cette portée-là écologique.
Comment c'est venu pour toi cette passion justement pour la céramique ? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur également ou...
En fait, avant ce master-là, j'ai fait un master d'histoire de l'art où j'ai fait un mémoire sur les céramistes japonaises et coréennes et comment elles ont rejoué les codes de la céramique. Et en m'intéressant à ça, en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement complexe et qu'on ne pouvait pas juste travailler ça de manière théorique. Donc je me suis mise à la pratique. Et en me mettant à la pratique, je me suis rendu compte de tous ces enjeux-là dont on n'a pas forcément conscience. Parce qu'en fait, en libre service, on peut acheter un pain de terre, on peut acheter des émaux, des engobes sur Internet. Et puis on peut faire ça chez soi, on peut même acheter un four et faire cuire chez soi. Sauf qu'en fait, la céramique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, où il faut quand même être bien renseigné pour pouvoir avoir une pratique en individuel. Et donc j'avais un peu envie d'informer les gens là-dessus. Encore une fois, pas dans l'optique de dire qu'il ne faut plus faire de la céramique, mais de montrer, entre guillemets, comment mieux la faire ou différentes manières un peu alternatives de la faire. Par exemple, ici, vous avez le travail d'une artiste qui s'appelle Karine Dutrion et qui se base sur vraiment ce qu'on trouve dans la nature, donc des types de terre, des argiles qu'elle est allée récupérer dans le champ d'un voisin qui a fait des travaux et une poche d'argile est ressortie avec des cendres de blé, pareil, d'un champ voisin qui a brûlé. Et donc, elle utilise tout ça. Et en fait, montrer qu'on n'est pas forcément obligé de faire sa céramique en achetant des émaux assez toxiques, mais qu'on peut aussi repartir de comment les potiers en fait, faisaient à la base, en allant rechercher ça directement dans la nature. Même si, voilà, faut pas se mentir, c'est quelque chose qui prend plus de temps. Et voilà, il faut équilibrer ça.
Bah, du coup, la dernière question, c'est est-ce que la céramique est encore à la mode aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de céramistes qui proposent ? Est-ce qu'il y a des clients qui viennent, qui sont plutôt branchés ça ? Ou alors c'est un petit peu en perte de vitesse ?
En fait, depuis la période Covid, et ça marche pour tout en fait, l'artisanat, il y a vraiment un retour, ce qu'on appelle un retour à la terre. Les gens s'intéressent, il y a de plus en plus de gens qui prennent des cours, on ouvre des cafés poteries, donc c'est des gens, les endroits où on peut venir prendre un café, prendre un cours, dessiner sur une poterie, et ça revient vraiment à la mode. Et justement, le fait que les gens, et c'est super, que les gens puissent se mettre à la terre, puissent refaire des choses de leurs mains, se rendre compte que bah, en fait, la tasse qu'on a chez soi, on peut la faire soi-même, c'est hyper important. Et c'est de là d'où est venue l'exposition, de se dire, bon, bah, on peut le faire soi-même, mais du coup, comment le faire soi-même, mais bien le faire. Mais non, ça, c'est vraiment un sujet qui revient à la mode. Et on voit de plus en plus d'artisans, il y a de plus en plus d'expos. Les musées font beaucoup d'expos sur la céramique. On a aussi des festivals de potiers où il y a des artisans qui présentent leur travail. Et c'est vraiment quelque chose depuis ces 10 dernières années, mais notamment post-Covid, où on a ce qu'on appelle un retour à la terre. Et ça revient à la mode, mais comme d'autres types d'artisanat aussi.
Lola, toi, tu nous proposes une expo, notamment sur c'est quoi une bombe carbone ? Qui a le briquet dans la main ? Des bombes encore inactives ? Ouh là là, ça sent le sulfureux quand même. Hein.
Oui, donc moi, je propose une exposition sur les bombes carbone. C'est une exposition qui est inspirée d'une plateforme qui a été développée par deux associations françaises. Ouais. Donc la plateforme, c'est carbonbombs.org. Ça a été développé par Eclairci et Data for Good. Et moi, je m'inspire en fait de cette plateforme qui met à disposition beaucoup d'infographies et d'informations sur ces projets pour le transformer en exposition. Et donc, une bombe carbone, c'est un site d'extraction de combustibles fossiles, pétrole, gaz ou charbon, qui, sur sa durée de vie totale, émettra au minimum 1 milliard de tonnes d'équivalent CO2, une gigatonne.
Voilà, donc du coup, c'est pas très écolo tout ça.
Voilà, c'est pas très écolo. Ce sont donc des projets qui... la totalité de ces projets, on en décompte au moins 422 sur la planète. Ils ont la capacité de faire totalement exploser les accords de Paris et on n'est pas du tout dans les... On n'est pas dans les accords de Paris si on continue à exploiter tous ces projets-là, toutes ces bombes carbone. Et donc c'est ce que j'essaye de mettre un peu en avant dans cette exposition.
J'imagine aussi que, évidemment, tu évoques dans ton expo les conflits qui sont actuellement en route, hein, notamment celui qui oppose la Russie à l'Ukraine. Alors est-ce qu'ils utilisent, eux, des bombes carbone ? Mais il y a quand même. Alors, on va dire qu'il y a quand même des grands.
Il y a beaucoup de sites en Russie, ouais. Mais il y a des bombes carbone en Russie. est très importante d'ailleurs, mais je ne parle pas forcément de conflits géopolitiques dans l'exposition. D'accord. Je suis beaucoup dans le factuel sur ce qu'est donc une bombe carbone, voilà, ce qu'est un site d'extraction. Et ensuite, j'essaye un petit peu de dérouler l'impact qu'elles peuvent avoir par rapport au budget carbone qu'on devrait respecter pour rester dans les accords de Paris et pour limiter en fait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et après, je déroule un peu aussi les acteurs qui... En fait, si ces sites-là, ils existent, c'est parce qu'il y a des exploitants industriels, aussi parce qu'il y a des banques qui permettent de financer tous ces projets, il y a des assureurs qui permettent aussi tous ces projets. Donc j'essaye de montrer un peu tous les acteurs qui gravitent autour de ça.
Parce que j'imagine qu'il y a aussi des grandes entreprises qui s'en servent de ces bombes et qui les fabriquent peut-être aussi.
Voilà, oui, et j'essaye de faire les bombes carbone, donc c'est à l'échelle de toute la planète, mais moi j'essaye de faire un peu un focus national pour qu'on comprenne un peu en quoi la France et certaines entreprises françaises peuvent avoir un impact. Et notamment, on a des banques qui sont très haut placées dans le podium des banques à l'échelle de toute la planète qui financent ce genre de projet. Et on a aussi une entreprise française, Total Energy, qui est très très impliquée dans ces projets-là et qui finance, enfin qui soutient et permet un certain chaos climatique si on n'arrête pas ce type d'exploitation.
Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu t'es intéressé peut-être à des lois qui sont passées, soit au gouvernement français, qui voudraient justement arrêter ce genre de choses ou pas ?
Mais des lois, pas forcément, mais c'est vrai que toute l'idée de départ de cette exposition, en fait, c'est ce constat que ces bombes carbone, elles existent et elles explosent totalement l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, c'est quand même un accord qui a été signé à la COP21 en 2015 par 196 parties qui engagent en fait toutes ces parties qui ont signé à faire en sorte de rester, à rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère post-industrielle et... préférablement se limiter à plus 1,5. Donc en fait, tous ces pays-là s'y sont engagés, mais sur des lois vraiment concrètes, on se rend compte qu'on n'y est pas encore, et la preuve en est, puisque des entreprises et des banques continuent à mettre énormément de moyens dans l'exploitation de ces sites-là, alors qu'en fait, c'est pas viable pour les conditions... Si on veut conserver nos conditions de vie sur Terre, nos écosystèmes, on ne peut pas continuer à lancer de nouveaux projets d'extraction fossile.
Bon, on va essayer d'y croire quand même.
Mais on y croit.
Et je trouve que le terme exploser, c'est un bon terme pour justement définir cette exposition. Merci beaucoup.
Voilà, merci.
Reportage réalisé lors du Festival des Expositions qui s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'Hôtel de Guine d'Arras et mis en œuvre par des apprentis étudiants du Master Expographie-Muséographie de l'Université d'Artois.